Chapitre 13 à 19. Division du pays. Je mentionnerai ce chapitre avec les chapitres 15 à 19, réservant le chapitre 14 pour sujet d'une méditation spéciale. Tous les ennemis sont vaincus, mais tous ne sont pas exterminés. Il y en aura toujours jusqu'à la venue du Seigneur. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, verset 26. Mais il s'agit pour Israël de les déposséder. Tant qu'ils possèdent quelque chose, la jouissance du peuple de Dieu n'est pas complète, et, de plus, ce dernier garde, au milieu de lui, une occasion permanente de chute. Si l'ennemi n'est pas anéanti, il ne tardera pas à relever la tête et à séduire le peuple quand il ne peut le combattre. Tel fut, en effet, le piège des Israélites établis en paix dans leur terre. Il est dit des deux tribus et demie, « Mais les fils d'Israël ne dépossédèrent pas les Guéchuriens et les Maacathiens, et Guéchur et Maaca habitèrent au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. » Chapitre 13, verset 13. De Juda il est dit, « Mais les Jébusiens qui habitaient Jérusalem, les fils de Juda ne purent pas les déposséder. » Et le Jébusien a habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Chapitre 15, verset 63. Et d'Éphraïm, mais ils ne dépossédèrent pas le Cananéen qui habitait à Guézer, c'est pourquoi le Cananéen a habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, et il a été asservi aux tribus. Chapitre 16, verset 10. Enfin, de Manassé, mais les fils de Manassé ne purent pas déposséder les habitants de ces villes-là, et le Cananéen voulut habiter dans ce pays. Chapitre 17, verset 12. Il put y avoir, comme nous le voyons dans ces passages, plus ou moins de fidélité déployée pour rendre les Cananéens inoffensifs, mais pas une seule tribu ne fut à la hauteur de son appel. Qu'en résulta-t-il? Tous les principes mondains qu'Israël avait combattus ne tardèrent pas, sous cette influence, à pénétrer au milieu de lui. Nous voyons dans les prophètes que les convoitises, la confiance en leur propre force, la recherche d'alliance avec les nations, faisaient partie de toute l'existence du peuple. Mais de plus, l'idolâtrie des Cananéens les envahit comme une gangrène, et ils finirent par se prostituer à tous les dieux des gentils. La corruption, le mensonge, l'injustice, le mépris de Dieu, la violence, la rébellion ouverte, toutes les choses en un mot qui constituaient l'iniquité des Amoréens et pour lesquelles le jugement de Dieu les avait atteints, devinrent la triste portion du peuple de l'Éternel. Enfin, Israël lui-même, chose horrible, remplace et devient, pour ainsi dire, cette armée des Cananéens que Satan menait à l'assaut contre l'Éternel, il rejette et crucifie le Christ, le Fils de Dieu. L'Éternel use envers eux de longue patience. Il leur envoie des appels pressants, des jugements partiels suivis de délivrances momentanées et de nouveaux appels. Qu'y avait-il encore à faire pour sa vigne qu'il n'ait pas fait pour elle? Mais enfin, le jugement définitif tombe sur eux. Ils sont transportés au-delà de Babylone, ils sont dispersés parmi les nations. Mais voici une autre chose, une chose merveilleuse. Si l'homme responsable est arrivé à la fin de son histoire, laquelle se termine par le jugement, Dieu n'est pas arrivé au bout de ses ressources. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentir. Pour pouvoir les bénir, Dieu les amènera à lui dans une condition toute nouvelle. Il les fera participer aux bienfaits de la nouvelle naissance, selon ce qui est écrit « J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Il agira sur leur conscience pour les ramener, il écrira ses lois dans leur cœur, il leur donnera la connaissance du pardon des péchés, et de la relation bénie avec lui-même dans laquelle il veut les faire entrer. Alors sont retrouvées d'une manière mille fois plus bénie toutes les bénédictions perdues. C'est ce dont Osée 14 nous offre le touchant tableau où l'on voit qu'Israël, après être retourné à l'Éternel, en lui demandant les bénédictions de la nouvelle alliance, s'écriera « Pardonne toute iniquité, et accepte ce qui est bon, et nous te rendrons les sacrifices de nos lèvres. » Verset 2. Le résidu rejette toute alliance avec le monde, toute confiance dans la force de l'homme, tout faux Dieu, et dans son isolement, il apprend à connaître la miséricorde de Dieu d'où dépend toute bénédiction pour lui. L'Assyrie ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus « Notre Dieu » à l'œuvre de nos mains, car auprès de toi, l'orphelin trouve la miséricorde. Remarquez encore, dans ces chapitres, les soins minutieux que prend l'Esprit de Dieu pour définir la place et les limites de chaque tribu, afin que toutes en prennent connaissance et se rendent un compte exact de leur part d'héritage. Il en est de même pour les individus maintenant. Dieu a donné à chacun de nous une place définie et une fonction dans le corps de Christ. Chaque membre de Christ est tenu d'en avoir le sens et d'agir en conséquence, afin que cette énergie de vie qui découle de la tête dans les membres trouve dans ceux-ci des instruments bien disposés pour son œuvre et y contribuant tous ensemble d'une commune impulsion. Le chef, le Christ, duquel tout le corps, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, produit, selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. Éphésiens 4, verset 16. La part de Lévi. Remarquez enfin la portion de la tribu de Lévi. Chapitre 13, versets 14 et 33. À la tribu de Lévi seule, il ne donna point d'héritage. Les sacrifices de l'Éternel, le Dieu d'Israël, faits par feu, c'est là son héritage, comme il le lui avait dit. Mais Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, était leur héritage, comme il le leur avait dit. Selon l'ordre de l'Éternel, ni Aaron, ni les sacrificateurs, ni toute la tribu de Lévi ne pouvaient avoir d'héritage en Israël. Nombre 18, verset 20. Et l'Éternel dit à Aaron, « Tu n'auras pas d'héritage dans leur pays, et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. Moi, je suis ta part, et ton héritage au milieu des fils d'Israël. » Deutéronome 18, verset 1. Les sacrificateurs, les Lévites et toute la tribu de Lévi n'auront point de part ni d'héritage avec Israël. Ils mangeront des sacrifices de l'Éternel faits par feu et de son héritage, mais ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. Leur héritage était, d'une part, l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'autre, les sacrifices de l'Éternel faits par feu. Il en est de même pour nous, chrétiens, son peuple céleste. Nous n'avons aucune part ici-bas. Mais notre privilège est de nous tenir devant Dieu, de le servir. Bien plus de le posséder lui-même, d'avoir communion avec lui, dans les lieux saints, avec le Père et avec le Fils qui est auprès de lui. Mais notre part dans le Fils est aussi les sacrifices faits par feu à l'Éternel, c'est-à-dire Christ selon toute la perfection de son œuvre et de sa personne devant Dieu. Christ, homme parfait, gâteau de fleurs de farine, oint d'huile et couvert d'encens, Christ, victime, holocauste, sacrifice pour le péché, tout ce en quoi Dieu trouve éternellement ses délices. Nous avons communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Christ, lui-même, notre modèle, le Lévite sans tache, le serviteur parfait, fit les mêmes expériences bénies pendant sa carrière ici-bas. Ses yeux se portent-ils sur la terre? Il dit. L'Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe. Se portent-ils sur le ciel? Il ajoute. Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables. Oui, un bel héritage m'est échu. Psaume 16, versets 5 et 6. Enfin, bien-aimés, ce qui est notre part actuelle est en même temps notre part future. Pour les sacrificateurs de la tribu de Lévi, cette bénédiction se réalisera aussi quand Israël jouira en paix de la gloire millénaire sous le règne du Messie. En parlant de ce temps béni, le prophète Ézéchiel, au chapitre 44, versets 28 à 30, nous dit « Et mon service leur sera pour héritage, moi je suis leur héritage, et vous ne leur donnerez pas de possession en Israël, moi je suis leur possession. » Il continue en montrant que les offrandes de l'Éternel seront leur portion dans ce temps glorieux. Ouvrez maintenant les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse. Cette scène céleste ne nous parle-t-elle pas des mêmes choses? La communion parfaite avec Dieu et avec l'agneau sera la part de notre héritage éternellement.